Les Canuts, deuxième partie, chapitre 5. Quinze jours s'étaient écoulés. Jacquemin ne revenait pas à la raison. Il demeurait, nuit et jour, en proie aux mêmes hallucinations, appelant sa femme, la voyant, lui parlant comme si elle eût été près de lui. Croyant entendre, à chaque battement de porte, à chaque roulement de voiture, retentir des coups de canon et des fusillades, dont les bruits imaginaires le secouaient de la tête aux pieds et lui causaient des terreurs folles. Marius et Zabé ne le quittaient pas. Le docteur était venu plusieurs fois, avait ordonné des potions calmantes, et le repos le plus complet, l'isolement le plus absolu. On verrait plus tard. Un matin, le père s'étant levé et habillé en silence, était allé droit au placard dans lequel il avait réuni les roues dentées et les tringles de fer de son régulateur. Et, après avoir tiré toutes les pièces de l'appareil, avec une extrême application, il s'était mis à le construire. Marius se réjouit de le voir calme, absorbé dans ses combinaisons, reprenant goût à quelque chose. C'était un bon signe. Il voulut utiliser ce répit pour aller rendre une pièce au magasin. Zabé resterait auprès du père. Mais après son départ, Zabé s'étant absenté pour aller puiser de l'eau, le père avait profité de ce moment pour s'échapper. Repris par son idée fixe, il avait résolu de se rendre à la chambre de commerce pour y présenter son régulateur. C'était la première fois, depuis la mort de sa femme, qu'il descendait en ville. Portant sous son bras son appareil soigneusement enveloppé, il traversa la cour du palais Saint-Pierre et se dirigea tout droit vers la salle où la chambre de commerce tenait habituellement ses séances. Un employé dans le vestibule lui demanda où il allait, ce qu'il voulait. En peu de mots, Jacquemin expliqua le but de sa démarche. Il avait fait une grande découverte qui devait lui donner la fortune et révolutionner le tissage. Avant de rendre publique son invention, il tenait à la faire consacrer par la chambre de commerce. D'autres employés, rôdant par là, s'étaient approchés et regardaient avec méfiance cet homme aux yeux hagards, à la voix saccadée, venu avec une barbe de 15 jours et en tricot d'atelier pour se présenter devant la chambre de commerce. Ils échangèrent leurs réflexions. Était-ce un ivrogne, un fou? Et comme il riait en chuchotant, l'un d'eux trancha la question. « La chambre ne tient pas séance aujourd'hui, mon brave. Il vous faudra revenir mardi prochain. Vous aurez soin de vous habiller un peu mieux et de vous faire un peu plus propre. » Cette fois, tous éclatèrent de rire. Le vieux pensa qu'on le trompait. Il essaya de passer outre et de pénétrer dans le cabinet du secrétaire général. Mais on lui barra le passage. Alors il éleva la voix. « Est-ce que la chambre de commerce n'est pas faite pour entendre tout le monde, les pauvres comme les riches ?» Les employés s'impatientaient. S'il ne sortait pas de bon gré, on l'emmènerait de force. Le vieux eut dans le regard un éclair de fureur. Il le chassait donc. Il n'était pourtant que des valets. Lui avait rendu plus de services qu'eux, tels qu'ils le voyaient. Il avait en octobre défendu les tisseurs, aux journées de novembre protégé M. Bouvier du Molard contre ceux qui voulaient le tuer. Et maintenant qu'il découvrait une fortune... « Oh, en voilà assez. Partez vite. Vous nous faites perdre notre temps. » Ils l'entraînèrent. À quoi bon discuter avec ce vieux fou? Lui se débattait. La voix courte, le geste menaçant, il protestait de toutes ses forces. On le violentait, à leur aise. mais il saurait bien réclamer, et on lui rendrait justice. Quand même, il n'avait pas de si beaux habits que ce tas de valets. » Péniblement, il l'avait traîné jusqu'à la porte extérieure. Le vieux avait opposé une résistance désespérée. Dans la lutte, son régulateur était tombé et s'était brisé. Devant les morceaux épars sur les dalles, lui s'arrachait les cheveux.
« Tas de lâches ! Vous me volez mon pain et celui de mon fils ! C'était mon travail de 15 ans ! Que vous a-t-on donné pour me faire tant de mal ? Tas de lâches !»
Au bruit, le concierge était sorti. Les passants s'attroupaient. Les oreilles échauffées, perdant contenance, les employés menacèrent. S'ils les insultaient, ils iraient chercher la police. Mais le vieux se désolait, se tordait les bras devant son régulateur brisé. Dans la foule, des tisseurs le reconnurent et s'avancèrent respectueusement. « C'est le père Jacquemin, le plus brave homme de la Croix-Rousse. Il paraît qu'il est devenu fou, pauvre vieux.
« Eh bien, puisque vous le connaissez, emmenez-le donc !»
Les ouvriers ramassèrent les morceaux du régulateur et deux d'entre eux, prenant Jacquemin par le bras, l'exhortèrent à retourner chez lui. Il finit par se laisser persuader. Les vêtements en désordre, courbés, titubants, lamentables, il s'éloigna d'une voix navrée, pleurant son invention perdue, son espoir de fortune évanoui, répétant sans cesse les mêmes choses. Il y avait travaillé toute sa vie à ce régulateur. Ça valait 100 000 francs comme un sou. Mais on voulait le voler. Il n'y avait donc plus de justice, bon Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent rue Néré, les ouvriers qui l'accompagnaient essayèrent de le faire taire. Mais lui voulut raconter son aventure au père Paclet, qui faisait griller du café sur le seuil de sa boutique. Avec de grands gestes, il recommença ses lamentations au milieu des voisins et des passants attirés par ses éclats de voix. C'était un scandale. Peugeot, le marchand de bois Terrasson, Mademoiselle Olympe Verchère, l'écoutait, tâchait de le calmer, haussant les épaules, échangeant des regards de compassion. Averti par Zabé de la disparition de Jacquemin, Madame Dénégris était aux aguets derrière sa fenêtre. Au bruit, elle descendit en toute hâte. Que s'était-il passé? Que disait-il? Mademoiselle Verchère, roulant les yeux, pencha vers elle son menton barbu.
Oh, des embrouillamini! Il n'avait plus sa tête à lui, c'était sûr. Un de ces jours, il ferait les 100 coups.
Marius arriva. Inquiet de n'avoir plus retrouvé son père en rentrant, il l'avait cherché dans la maison, puis dans le quartier, s'informant ça et là. Personne n'avait vu Jacquemin. Désolé, il revenait à la maison pour la 10e fois quand il aperçut le rassemblement qui s'était fait autour du malheureux. On s'écarta. Marius, avec l'aide des ouvriers qui avaient ramené son père, lui persuada qu'il l'accompagnerait demain à la chambre de commerce, qu'il réparerait le régulateur et finit par le faire remonter. Louise, en larmes, courut chercher un grand fauteuil pour le faire asseoir. Et tandis que Madame Dénégris mettait de l'eau sur le feu pour préparer une infusion, Marius obligeait les deux ouvriers à trinquer avec lui, puis les quittait avec des poignées de main. Il n'oublierait jamais la bonne action qu'il venait de faire. Jacquemin, retrouvant son chez-lui, s'apaisa peu à peu. Ses nerfs surexcités se détendirent. Il tomba dans un grand abattement et, jusqu'au soir, resta près du poêle, comme anéanti. 2 jours après cet esclandre, Marius et Zabé, silencieux, travaillaient à leur métier. Une grosse pluie, mêlée de giboulées, battait les vitres avec fracas, striant de hachures grises le morne horizon des toits crénelés de cheminées. on n'avait pas repris de pièces pour le père. Son métier était vide. Tout à coup, le vieux se leva, parlant de travailler, lui aussi, pour n'être pas à charge aux autres. Il n'avait jamais été fainéant et savait que, pour manger du pain, il fallait le gagner. Alors, il s'assit au métier vide et, une heure durant, tira le bouton et ramena le battant, qui claquait contre le bois. Il allait avec une ardeur de possédé, suant à grosses gouttes, ne s'arrêtant que pour marquer avec une épingle sur le carton piqué au montant du métier les maîtres imaginaires qu'il croyait tisser. Zabé, le cœur gros de pitié, demeurait les mains inertes. Observant son père à la dérobée, Marius souffrait horriblement, mais ne voulut pas le déranger, puisqu'il était occupé à quelque chose. Que faire si le pauvre fou provoquait de nouveaux esclandres comme celui de la chambre de commerce? Sans doute, il tâcherait de le garder avec lui, malgré tout. Dût-il s'astreindre à une surveillance de tous les instants? Mais s'il arrivait quelque scandale, on l'obligerait certainement à le faire enfermer. Cette pensée lui rappela l'apparition des fous derrière les barreaux de l'Anticaille, le jour de l'enterrement, et raviva toutes ses douleurs. Il ne put se contenir davantage et éclata en sanglots. Le vieux s'arrêta, étonné, le regardant fixement. « Ne pleure pas, petit, dit-il. J'irai bientôt rendre ma pièce. Le patron me donnera des sous. Et je te rapporterai un pain d'épices. Ne pleure donc pas, mon petit gonne. » Et, riant d'un rire saccadé, il se remit à faire marcher sa navette sans trame. Dans le vacarme du métier, la porte s'ouvrit. Marius aperçut la haute taille de M. Berthoux. Il était allé plusieurs fois à l'atelier de l'artiste, chercher de la part du magasin des cartes à porter au liseur. M. Berthoux habitait au Chartreux. Il était un habitué des jeux de boules des remparts, où, tantôt acteur, tantôt spectateur, il se mêlait aux ouvriers et allait se délasser de son travail en fumant sa pipe. Jacquemin, tout entier à son œuvre de maniaque, ne se dérangea pas. Le dessinateur tendit la main à Marius. « Mon ami, dit-il, j'ai à parler à vous seul. » Marius le fit passer dans sa chambre et prit son parapluie ruisselant qu'il déposa dans un coin. « C'est en désordre, murmura-t-il. Quand il n'y a plus de femme dans une maison, tout s'en ressent. » Il offrit une chaise. M. Berthoux exposa le but de sa visite. En même temps que la mort de la mère Jacquemin, il avait appris le triste état dans lequel était tombé le père, qu'il avait connu et estimé. Il savait que Marius eût été disposé à le garder auprès de lui. Mais un homme devait raisonner froidement. Si ce qui s'était passé l'autre jour à la chambre de commerce se renouvelait, on pourrait contraindre la famille à faire entrer le malheureux à l'Anticaille. Alors, il n'y aurait guère chance de guérison, car le milieu dans lequel il vivrait ne serait pas fait pour atténuer son mal. Il était du devoir du fils de tout essayer pour ramener son père à la raison. Or, M. Berthoux connaissait, près de Lyon, à Limoneste, un brave fermier, chez qui on pourrait installer le malade. Pour le distraire, on l'emploierait à de petits travaux, et sans doute il s'en trouverait bien. D'ailleurs, on pourrait toujours faire un essai de quelques semaines, de quelques jours même. Mais il fallait l'ôter d'ici, où tout lui rappelait celle qu'il avait perdue, et où l'on était, pour ainsi dire, obligé de le séquestrer. La fermière était une bonne femme. Elle en prendrait soin et veillerait sur lui. Marius avait écouté, pensif, regardant d'un œil fixe l'eau qui découlait en rigole du parapluie. M. Berthoux avait raison, mais l'idée de se séparer de son père malheureux le navrait. Réfléchissez bien, ajouta le dessinateur. Vous avez là trois métiers. Vous êtes jeune, actif. Et sur ce que vous gagnez, vous pouvez facilement prélever quelques francs par mois pour votre père.
Oh, ce ne serait pas une question. Si j'hésite, c'est qu'il me sera bien dur de me séparer de lui.
Pourtant, dans son intérêt même, je crois qu'il est raisonnable de faire ce que vous me proposez. Le médecin dit que l'air de la campagne lui ferait du bien. J'irai le voir souvent. Et, ma foi, si le temps lui durait trop là-bas, je le ramènerai.
Le dessinateur se leva.
Très bien, dit-il. Le fermier vient tous les jeudis à Lyon, avec sa carriole. Si vous voulez passer chez moi, demain vers 9 heures, vous le verrez.
C'est entendu.
J'irai, monsieur.
Marius accompagna monsieur Berthoux, le remerciant de l'intérêt qu'il portait à son père.
Bon, bon, reprit le dessinateur, il n'y a pas de quoi me remercier.
Comme ils retraversaient l'atelier, Jacquemin se retourna avec humeur.
« Qu'est-ce qu'il veut, ce bougre-là, avec ce grand chapeau ?»«
Marius, ne lui dis pas où est le régulateur. »«
Vous voyez, monsieur, dit tristement Marius, il ne vous a pas reconnu. »«
Pauvre homme, soupira monsieur Berthoux. »
Et serrant la main de Marius, il sortit, après lui avoir de nouveau donné rendez-vous pour le lendemain. M. Victor Jacquemin avait appris en même temps la mort de sa belle-sœur et la folie de son frère. Il en avait ressenti un violent chagrin. Il n'avait que ce frère, et après tout, il l'aimait. Sans rien dire à sa femme et à sa fille, il avait aussitôt résolu de venir en aide aux malheureux en s'ingéniant à ne pas se faire connaître. Car Marius, qu'il savait fier, n'eût accepté ni un secours, ni un service d'un oncle qu'on lui avait sans doute appris à détester. Il s'était ouvert de son projet à M. Berthoux, qui avait bien voulu servir d'intermédiaire. Après avoir consulté le médecin qui soignait son frère, M. Victor Jacquemin s'était rendu sur le champ à sa maison de campagne de Limonest et avait proposé à un fermier du voisinage de recueillir le malade. Le paysan avait accepté l'offre et promis de garder le secret. Il fut convenu qu'il débattrait même un prix avec Marius, bien que le fabricant dût lui payer la pension. M. Berthoux s'en était allé satisfait de sa mission. Marius ne dormit pas de la nuit. Il hésitait encore à se séparer de son père. Cependant, de bonne heure, il quitta l'atelier, laissant le malade sous la surveillance de Zabé, et à 8h30, il sonnait chez M. Berthoux, rue du Clos des Chartreux. L'artiste vint ouvrir, en veste d'intérieur, coiffé d'une toque, chaussé de pantoufles et fumant sa première pipe de la journée. Le rez-de-chaussée de la maison lui appartenait, avec un bout de jardin derrière, qu'il cultivait lui-même. Il vivait là, en garçon, avec une vieille domestique, partageant sa vie entre la peinture de fleurs et ses dessins de fabrique qui lui procuraient une large aisance. Il fit entrer Marius dans son atelier, tapissé de tableaux et d'études, éclairé par une vaste baie percée au nord et dans lequel ronflait gaiement un grand poêle de faïence.
« Eh bien, mon ami, » dit-il, faisant asseoir Marius auprès de lui sur le divan. « Qu'avons-nous décidé ?»
Et, comme le jeune homme se montrait perplexe, M. Berthoux insista de nouveau, avec tant de persuasion, que sa cause était gagnée, lorsque le cabriolet du fermier s'arrêta à la porte. Jean Barou entra. C'était un homme de 65 à 70 ans, très vigoureux, le teint rouge avec des cheveux tout blancs et une bonne figure d'ancien soldat. Il jura qu'il serait bien aise d'avoir chez lui le père Jacquemin.
Il ferait la partie avec lui les dimanches et jours de mauvais temps, et sa femme en aurait soin. Il plut tout de suite à Marius. Alors on discuta le prix. Le paysan feignit de ne pas vouloir en fixer un le premier. « Vous savez ce que ça vaut, » disait-il en regardant de côté. « Mais non, » répondait Marius. « Mon père vous rendra bien quelques services, mais il y aura des moments où sa maladie le tiendra plus fort et où il ne pourra rien faire. Fixez-vous même un prix. » Et le fermier recommençait à barguigner comme une nourrice tâchant d'obtenir du sucre et du savon quand elle a déjà un bon prix en argent. Marius proposa 20 francs par mois. Ce prix convenait au fermier. Pour gagner 20 francs à la campagne, il fallait peiner. Mais il ne voulut pas en avoir l'air et fit des façons, demandant 25 francs. Enfin, Monsieur Berthoud intervint. On tomba d'accord à 20 francs. Le temps s'était mis au beau. On décida d'emmener le père ce matin même. Marius remercia M. Berthoud, qui lui souhaita bon courage, et monta dans la carriole avec Jean Barou. « Hue ! » cria le paysan. Au milieu des cahots, ils descendirent grand train la rue des Chartreux et la côte des Carmélites, et s'arrêtèrent rue Néré. Pendant que le fermier gardait son cheval, Marius monta et fit part à Zabé et aux voisins de la résolution qu'il venait de prendre. On raconta au père qu'on avait enfin reconnu l'utilité de son régulateur et que, pour le récompenser, la chambre de commerce lui donnait une maison de campagne où on allait le conduire en voiture. « Vous voilà rentier, monsieur Jacquemin !» s'écria la mère des Négris. « Ma foi, c'est quasi temps !» dit-il avec un rire satisfait. « Il y a assez longtemps que je travaille et que je me mange les sangs. » Alors, il fit 20 questions sur sa maison de campagne, voulant savoir combien il y avait d'étages, si le jardin était grand, s'il y avait des vaches. Puis, gaiement, il se laissa habiller, consentit à boire et à manger avant de partir, et voulut embrasser Madame des Négris, Louise, Zabé, lui-même. « Oh, je reviendrai vous voir, » dit-il. « C'est pas parce qu'on devient riche qu'il faut oublier les amis. Et puis je vous inviterai à venir, au printemps, quand il fera beau. » « Oui, monsieur Jacquemin, nous irons. Au revoir. Portez-vous bien. Merci, et faites-en de même. » Il descendit l'escalier, très fier, son grand chapeau en arrière, comme au bon temps. Marius fit monter son père dans la carriole garnie de paille fraîche et lui enveloppa les jambes d'une couverture de lit. Pendant ce temps, Barou descendait une caisse contenant le linge et les hardes, qu'il attacha derrière avec des cordes. Puis il monta à son tour et, d'un coup de fouet, démarra sa bête, qui partit, trottant en vache, comme les rosses des laitières. Jacquemin était assis au milieu, entre Marius et le fermier. Par la côte des Carmélites et la rue Saint-Marcel, ils gagnèrent le quai Saint-Vincent. Ça et là, le père apostrophait les passants, riait très haut, s'attirait des injures. Marius cherchait à le faire taire et à fixer son attention. Un train de 4 grands bateaux, chargés de marchandises et attachés à la queue les uns des autres, remontait la Saône grossie par les pluies. « Regarde donc, père. Les équipages étant interdits dans la ville, des modères remorquaient les bateaux, de la quarantaine à Serein. La maille, retenue d'un côté à la bande intérieure du premier bateau, était fixée par l'autre côté à une boucle de fer du pont Saint-Vincent. De fortes échelles, mises à plat, bout à bout, allaient d'une extrémité à l'autre du train. Il y avait là 10 modères, aux membres d'Hercule, vêtus seulement d'un pantalon et d'un tricot, et portant une bricole en façon de baudrier qui se terminait par une corde munie d'une cheville de bois. « Voilà des hommes !» s'écria Jacquemin.
Ces bras, bon sang!
Chaque modère, attaché à la corde par un nœud coulant, la face tournée vers la poupe, étampait ses pieds contre les barreaux de l'échelle et se baissait en arche de pont, les bras en avant, se roidissait, se tendait. Ses mains finissaient par atteindre les échelons. Alors, dans un violent effort des pieds et des mains, il sentait l'énorme bateau glisser peu à peu sous lui, avançait un pied, puis l'autre, et marchait, toujours rampant. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième modère rampait à sa suite. Arrivé au bout de l'échelle, au cul du bateau, vivement il se relevait, d'un coup de pouce faisait sauter la cheville et, courant sur les bandes, revenait à la proue, se plaçait derrière le dernier modère. Et, en mesure, des robustes poumons sortaient ce cri répété.
« Ah, his ! Ah, his !»
Jacquemin s'amusait de ce manège. Tout à coup, dans le tas des modères, il en désigna un plus grand, plus gros que tous les autres, un coup de taureau. Il le connaissait, celui-là. C'était Fleury, dit Gros Benet. Ils avaient souvent piqué des têtes ensemble, quand ils étaient gones, aux bêches du père Marmé, à la mort qui trompe. Il était fort, le bougre. Quand il était à plat sur l'échelle, un cheval ne l'aurait pas dérapé. Marius laissait parler son père, heureux de lui voir un moment de lucidité. La carriole longea le quai Sainte-Marie-des-Chênes et le quai d'Alincourt, traversa la Saône au pont de Serein, au-dessous du fort Saint-Jean, dressé sur son piédestal de rocher veiné de roses. Les modernes avançaient que lentement. Leur train suivait la rive gauche, le côté de l'Empire, et, du côté du Riaume, en amont du pont, un bateau de pêche descendait, monté par deux hommes. La crue était si forte qu'une seule arche permettait de passer. Craignant une fausse manœuvre, un des pêcheurs fit de ses mains un porte-voix.
« Ohé !»
cria-t-il, allongeant la finale.
« Ohé !»
répondit-on du train de bateau.
« Aviso lo navio !»
Les modères ralentirent leur marche pour laisser le passage au barco. Le pont franchi, Barou fouetta sa bête qui reprit le trot. Un peu plus loin, les trois voyageurs rencontrèrent un second train de bateau. Celui-là, tiré par des chevaux, et chaque quadrige conduit par un homme monté sur le porteur de devant. Deux par deux, jarrets tendus, naseaux écumants, les énormes bêtes tiraient à la remorque sur le chemin de halage inondé, fendant de leur large poitrail l'eau jaune qui battait les vorgines de la rive. Le premier bateau était plus grand, plus élégant, avec une cabine à l'arrière pour le capitaine. Les chevaux étaient ornés de houppettes de laine rouge et de queues de renard, et les mariniers qui les montaient, assis sur une couverture bleue, jambes ballantes, les excitaient de la voix.
« D'avant haut, fatiro !»
commandait du bateau le capitaine. Et du bord, des cris répondaient, mêlés de coups de fouet retentissants. Attentif, Jacquemin suivit longtemps des yeux ce spectacle entrevu tant de fois qui éveillait en lui le souvenir des temps heureux. Puis la voiture, brusquement, tourna à gauche et s'engagea dans la route de Champagne au long du coteau.
« Avez-vous froid, père ?» demanda Marius.
« Non, sommes-nous bientôt arrivés ?»«
Dans une petite heure, » répondit le paysan.
Et le voyage se poursuivit sans encombre, Jean Barou fouillant sa rosse au monté et mettant le sabot aux descentes.